Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
12 postes.
Tous les postes de radio
sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste, midi 13h,
17h, 18h, agenda,
nouveautés discographiques,
interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
Place entre chaque mot.
Moi, je vais tout mettre
en nous parlons tous dans la logosphère.
Vous êtes ici,
si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure,
avec moi,
c'est le citoyen de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio,
autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et c'est sous un soleil hallucinant que nous ouvrons ce Tous au poste. Julia Chamaudon au micro, Christian Coste également au micro, Manuel Plaza à la technique, et puis Yannick, Célia et Thomas au micro pour les bons plans du jour. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, au programme de ce Tous au poste, eh bien, on parlera de l'IRTS, l'Institut de formation des futurs travailleurs sociaux. Nous parlerons dans un premier temps des mouvements de grève qui sont en train, eh bien, de se mouvoir à travers toutes ces écoles de par au niveau national, de par toute la France. Et puis, en deuxième partie, on recevra le directeur Jacques Fraisse de l'IRTS, de cette institution, pour parler des prochaines portes ouvertes et de son regard sur ces mouvements sociaux actuels. Tout de suite, sans plus attendre, on va passer à nos bons plans. On va également faire un petit tour du côté de la nouveauté de la semaine. Mais pour le moment, armez-vous de vos stylos, armez-vous d'un bout de papier. C'est parti, c'est parti.
Et on commence comme d'habitude avec les bons plans musique. Pour tous les amoureux de soul, vous avez rendez-vous à 21h au Baloir pour une soirée Open Your Soul, justement. On rappelle que c'est au 21 boulevard Louis Blanc, l'entrée est de 5€.
Et venez jazzer au son des trompettes de Franck Nicolas et de son jazz club. Le concert commencera à 21h30 au bar de la Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figuérol. L'entrée sera libre. Et à 21h30, toujours, le groupe Jam Open Your Soul vous invitera sur la scène de la Bodega Los Caracoles, 8 places les sacs, il vous en coûtera 3€.
Vous voulez passer une fin d'après-midi bobo? Alors je vous propose le conservatoire à la classe de contrebasse de Raphaël Buisine. C'est à 17h30 au conservatoire, 3 rue de Condol. Il y aura aussi la classe de hautbois de Laurent Georgel. C'est à 18h au conservatoire, rue Eugène Lisbonne.
Et on enchaîne avec le théâtre. On l'attendait patiemment. Ça y est, c'est aujourd'hui que commence le printemps des poètes. Donc pour tous les amoureux des planches, vous pourrez participer à un atelier d'athlétisme poétique avec les comédiennes Juliette Mouchonna et Héloïse Alibi. C'est à 20h à la salle Saint-Ravi.
À 18h30, le bar La Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figuérol, toujours, vous invite à découvrir les jeunes talents du théâtre amateur de l'Université des sciences et techniques de Montpellier. Leur improvisation sera gratuite au public.
Vous êtes des consommateurs, vous aimez consommer. En théâtre, je vous propose Je Banque, c'est débat spectacle par la troupe des Wookiees et la CLCV Consommation. Logement, cadre de vie. C'est sur les relations entre les banques et les consommateurs dans le cadre de la journée mondiale des consommateurs. C'est à 18h30 au Blabla Bar, 4 rue de Condol. Donc si vous avez aimé la semaine de l'environnement, c'est toujours un peu dans ce type de prolongement, on va dire, de votre conscience. Yaya, c'est une conférence sur l'Allemagne. Débat en allemand sur le thème. Allez, on y va. Meine Langer, Werner, Sud Frankreich, avec Hans Dernes. C'est à 19h à la maison de Heidelberg, 4 rue des Trésoriers de la Bourse.
Et comme chaque lundi, vous avez pu le constater malheureusement, on est pauvre en bons plans mais pas en bonnes idées. Alors on vous propose les puces et marchés de la place Salengro. On vous rappelle que le kilo de radis originaire du Poitou-Charentes est au prix exceptionnel de 3€.
3€ le kilo.
Mais dépêchez-vous, le marché termine dans 3 quarts d'heure.
Merci Célia, Yannick et Thomas pour ces bons plans que je dirais assez fous aujourd'hui. Merci, je suis sûre que vous avez forcément donné envie aux auditeurs d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, hein, à l'extérieur de chez eux. Tout de suite, on va écouter la nouveauté de la semaine que tu vas nous présenter, Manuel Plazam. Mais avant ça, je vais juste rappeler que nous proposons des places pour Faustine Ligné-Koula. C'est un spectacle de danse qui se déroule demain à l'Opéra Comédie, ce mardi donc 16 mars. Nous avons 10 places de disponibles. Et puis également pour Jobim Project, qui lui se déroule au Jam. C'est un hommage à Antonio Carlos Jobim, avec notamment Paulino Lemos, Christophe De Oliveira, Paul Mascarenhas et Gerson Saeki. Et ça se déroule au Jam ce samedi 20 mars. Nous avons également 10 places. Alors j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent tendrement à appeler le 09 51 17 34 04, 09 51 17 34 04, afin de se voir offrir des concerts et des places de spectacles de danse incroyables. Voilà, je te laisse la parole, Manu, pour la nouveauté de cette semaine.
Voilà, Faustin Ligné-Koula, juste une petite précision qu'on avait pu voir au dernier festival Montpellier Danse, dans une chorégraphie de Raymond Hogg, et qui présente là sa propre chorégraphie. C'est donc demain soir sur les planches de l'Opéra Comédie. Vous pouvez donc nous appeler pour gagner des places. La nouveauté de cette semaine, on peut l'écouter en croquant des radis, par exemple. Il s'agit d'un groupe nantais qui s'appelle Tribeca, qui sort son second album, Colors, un album qui s'ouvre avec le titre suivant, Rose. c'est groovy, c'est jazzy, ça vient de Nantes, c'est Tribeca avec leur second album Colors, nouveauté de la semaine, un disque sorti chez Underdog Records.
Tous au poste, interview.
Et en première partie de ce Tous au poste, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir Benoît et Youhen, qui sont élèves à l'Institut Régional du Travail Social, l'IRTS de Montpellier. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes ici pour nous parler eh bien, des difficultés qui traversent votre filière. Vous êtes un collectif d'étudiants, futurs travailleurs sociaux. Alors travailleurs sociaux, ça comprend les assistants de services sociaux, les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants. Vous, vous étudiez à l'IRTS de Montpellier et vous vous mobilisez suite à l'application du décret du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages. Alors votre, ça c'est pour implanter le décor. Votre petite formation comprend des stages pour aborder la formation d'un point de vue pratique et professionnel. Seulement voilà, ils sont en danger. En quoi l'application de ce décret remet en cause votre formation ?
Yoann, je vais commencer. Alors la difficulté qu'on a, c'est trouver des lieux de stage, parce que depuis le décret que tu énonçais, les structures qui nous accueillent en stage sont obligées de nous gratifier. Donc c'était 3 mois en 2008, depuis novembre 2009, c'est passé à 2 mois l'obligation pour les structures de gratifier les stagiaires. Donc la gratification, c'est environ 400 euros.
398,50 je crois.
Voilà, c'est ça, pour être très précis. Et la difficulté, c'est que les institutions qui doivent nous recevoir en stage n'ont pas les financements nécessaires pour nous gratifier. Et du coup, il y a de moins en moins de lieux de stage. Et notre formation en pâtit aussi parce qu'on a de moins en moins de choix de stage. Et en plus, nos écoles raccourcissent la durée de nos stages courts pour éviter cette gratification.
Oui, puis on m'a même dit que dans ce raccourcissement-là, vous pouvez être en stage pendant 2 mois et puis re-être en stage ensuite pendant 2 mois afin de séparer la durée de stage de 4 mois en 2 et de ne pas mettre en place cette gratification.
Oui, voilà, tout à fait. C'est une réponse qui a été trouvée en fait de la part donc, de l'Institut de formation, mais qui est de dire si donc, les stages excédant 2 mois doivent être gratifiés, on va essayer de découper ces stages pour que ça ne fasse jamais plus de 2 mois. Mm-hmm. Et donc, par là même, avoir enlevé l'obligation pour les structures qui nous accueillent de nous gratifier.
C'est dommage parce que finalement, ça part d'une, je dirais, bonne intention dans le sens où c'est vous gratifier lors de stages qui sont compris dans votre formation, hein, vous les payez, vous rémunérez. Et puis finalement, on voit que ces financements-là ne sont pas possibles puisque beaucoup de structures qui vous accueillent pendant vos stages ne peuvent pas débourser autant d'argent pour vous payer pendant vos stages. C'est quand même incroyable ce système.
Je crois que c'est vraiment une bonne chose, cette histoire de gratification. C'est lutter contre la précarité étudiante en général. Ça concerne les travailleurs sociaux, les étudiants en travail social, mais ça concerne tous les étudiants en général. Donc sur le principe de la loi, on est vraiment d'accord. Après, le problème, c'est que comme dans la politique gouvernementale actuelle, c'est beaucoup d'effets d'annonce. Et derrière, il n'y a pas les fonds qui vont derrière. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'État doit aussi prendre ses responsabilités. S'il veut vraiment lutter contre la précarité étudiante, il doit permettre... aux organismes qui dépendent des subventions délivrées par l'État, de financer les stagiaires, c'est-à-dire leur donner des sous pour qu'on soit gratifié. Et notre revendication principale sur cette histoire de gratification, c'est que il y a un nouvel organisme dépendant de la préfecture, a priori, qui rémunère directement les stagiaires pour pas qu'il y ait conflit d'intérêts, que le stagiaire garde vraiment sa place et que ce soit ni l'école ni l'institution qui accueille le stagiaire qui gratifie.
Quelles conséquences ça a dans votre parcours professionnel ? Est-ce que vous le sentez déjà ?
Dans notre parcours professionnel, sachant qu'il n'est pas réellement entamé, mais c'est vrai qu'il commence à se construire dès maintenant. Et là, comme le disait Yuan, la formation est basée sur l'alternance. Donc il y a alternance, dit aller-retour entre des temps d'école proprement parler et des temps donc, de stage. Et donc la conséquence la plus directe, c'est tout simplement la réduction... assez sensible des périodes de stage qui sont tout aussi importantes que les périodes que l'on passe à l'école, en fait.
Vous éprouvez des difficultés personnelles pour trouver des stages et être rémunéré déjà par rapport à ce décret actuellement ?
Alors sur l'IRTS de Montpellier, c'est l'école qui nous trouve les stages, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là, même si pour la mise en stage, là en début d'année, on a eu quelques difficultés, c'est pas vraiment la difficulté, mais aujourd'hui on s'inquiète vraiment pour l'avenir, parce que les structures refusent de prendre de plus en plus des stagiaires. Et notre alternance, la formation alternance est vraiment mise en danger par cette gratification.
Et puis je rajouterais qu'il n'y a pas réellement de difficulté, donc tout le monde a eu un stage, à ceci près que certains auront quand même une longueur de stage qui sera raccourcie comparée aux autres qui ne seront pas gratifiés, parce que justement ils sont gratifiables, et pour qu'ils ne le soient plus, on va réduire leur stage d'une à deux semaines, ce qui fait que même à l'intérieur de la formation, il y a un certain déséquilibre entre les étudiants.
Quelles conséquences ça a, vous, dans votre parcours professionnel? On l'a vu. Quelle est la réponse maintenant des politiques face à ces revendications, puisqu'elles ont commencé, je le rappelle, en mai 2008, c'était il y a longtemps, hein?
Alors en mai 2008, il y a des enveloppes qui ont été débloquées par le Conseil Général, entre autres, pour permettre la gratification des stagiaires. Le politique, il s'intéresse peu à ces questions parce que c'est pas forcément ce qui se passe en ce moment. Nous, notre objectif aussi dans ce mouvement, c'est essayer de toucher les hommes politiques, et là en période d'élection d'autant plus. C'est vrai que pour l'instant, on a très peu de réponses, que c'est pas la priorité. On pose la question aux politiques, pour l'instant on n'a pas de réponse, mais on se mobilise, on essaie de s'organiser entre les différentes écoles, les différentes villes partout en France pour avoir un discours cohérent et un peu unanime sur nos revendications. Donc on est au début du mouvement, parce que nous ça fait que un mois et demi qu'on se mobilise, et ça prend de l'ampleur, et on essaie de toucher le maximum de gens, et l'homme politique en général.
Même au niveau local, ici à Montpellier, même si ça fait juste un mois et quelques que vous êtes en mobilisation, vous avez eu des retours des politiques?
Alors on a pu donc rencontrer Monsieur Liberti, donc qui est vice-président du Conseil Général, qui est plus précisément en charge donc de tout ce qui est affaires sociales. Donc il a été très ouvert, il nous a écoutés, et on lui a finalement appris beaucoup de choses, parce qu'il était loin de se douter des répercussions de cette loi, et il en ignorait une bonne partie.
C'est fou ça, je veux dire, qu'il ne soit pas au courant de ce qui se passe au niveau du travail social en France, puisque c'est un mouvement qui secoue toute la France.
Tout à fait, mais la loi donc qui institue la gratification a quand même été votée, il semblerait, un peu rapidement. Il n'y a pas eu beaucoup de battages médiatiques autour. Et c'est vrai que c'est passé assez inaperçu dans beaucoup d'endroits, dont notamment certains hauts lieux politiques. C'est assez étonnant.
Alors, on sait que la FORT, hein, qui est l'Association française des organismes de formation et de recherche en travail social, qui est née au printemps 2000, c'est une association, je le rappelle, qui a la volonté de fédérer les établissements de formation qui préparent au métier du social et de l'animation. Cette association, elle s'est liée au GNI, hein, le NI, qui est un groupement national des instituts régionaux du travail social. Et eux, ils avaient attiré l'attention du Premier ministre, du ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur les répercussions financières du projet de ce décret concernant la prise en charge des stages. Ils avaient bien noté le fait que ça pouvait engendrer des difficultés au niveau de la mise en œuvre, un blocage de la formation, etc. Est-ce qu'ils ont été entendus finalement, puisque c'est des organismes qui pèsent, hein, dans le milieu social, qui sont quand même de grosse envergure? Est-ce qu'ils ont été entendus par le gouvernement?
Alors je crois pas qu'ils étaient vraiment entendus, parce que sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Ils se mobilisent aussi parce que ils voient bien qu'à travers cette loi, ou en tout cas c'est la gratification, il y a un danger pour l'alternance et pour les formations du travail social. Pour mémoire, les UFM ont disparu en quelques années et ont été la formation des professeurs des écoles a été transférée à l'université. C'est vraiment un risque qui est de plus en plus grand pour toutes les formations du travail social, qui aujourd'hui se passent dans des instituts où il y a de l'alternance professionnalisant. Et le risque, c'est qu'il y a un déplacement vers l'université. La gratification, c'est une étape. On pense que d'ici quelques années, comme les UFM, les IRTS ont vocation à disparaître, ou en tout cas être rattachés plus fortement à l'université. Donc que la FORT et le GNI, qui sont les groupements des écoles en travail social, se mobilisent pour défendre, là en l'occurrence la gratification, mais l'alternance aussi, on trouve ça normal. Et on n'est pas les uns contre les autres, étudiants contre formateurs ou contre la formation. On essaye de maintenir l'alternance et notre formation, même si en fonction des établissements ou des lieux de formation, le discours des directions ne sont pas toujours les mêmes.
Ça vous fait peur ?
Oui, ben oui, oui, ça nous fait peur parce que ça concerne notre avenir direct. Et donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose, c'est quand même quelque chose qui pose question. Après, au-delà de ça, c'est vrai que c'est ces problèmes qu'on rencontre là qui sont liés, par exemple, pour nous à la gratification, on les rencontre aussi à d'autres niveaux, dans nos lieux de stage. Des lois qui passent, qui ne sont pas forcément appliquées, ou des manques de moyens criants. Donc c'est vrai que oui, oui, c'est, ça fait peur pour l'avenir. Oui. Ouais.
Vous avez quel âge là, actuellement ?
J'ai bientôt 25 ans.
Moi j'ai 29 ans jeudi.
Voilà. D'accord. Donc vous commencez là votre formation ? C'est ça, hein ?
Voilà, c'est ça. On est au tout début, en première année, donc on a encore deux grosses années à faire.
Les réactions du personnel enseignant et du directeur qu'on va recevoir juste après dans ces lieux, dans ces locaux, face à cette mobilisation, qu'est-ce qu'ils en disent, eux ?
Alors, voilà, le problème pour eux, ce qu'on a cru comprendre, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'ils sont un peu pris entre deux feux, à savoir la demande étudiante de l'application de la loi, mais aussi, de notre côté, les problèmes donc que rencontrent les structures, ou souvent les petites structures, pour nous gratifier, le manque de moyens. Donc c'est vrai qu'ils doivent jongler entre ces deux choses-là.
Et ils sont dans une position pas facile, hein, finalement.
Non, bien sûr que c'est pas évident, hein, ça, je reconnais tout à fait. Après, bon, c'est vrai que plutôt que naviguer entre deux eaux, des fois, il faut
choisir.
Voilà, je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et que ce soit une position ou une autre, il vaut mieux être clair.
Le choix du directeur, ou en tout cas la direction de notre école ici à Montpellier, a été la réduction des stages, alors que lors d'une rencontre nationale, dans une coordination nationale à Angers au début du mois, on a pu remarquer que dans d'autres écoles, dans d'autres villes en France, la position des écoles était quand même différente, en disant on maintient les durées des stages et on verra après. La position de l'IRTS ici à Montpellier, c'est quand même on réduit les stages et puis on verra après. Même si sur le fond ils sont d'accord que la gratification c'est une bonne chose, ils sont face à voilà à ce dilemme voilà. Et aujourd'hui, c'est plus aller dans le sens de ne pas appliquer la loi et donc réduire les stages que le soutien massif aux étudiants et à cette loi sur la gratification.
Qu'est-ce que vous proposez, vous ?
Ben nous, on propose tout simplement que l'État s'engage à assumer les lois qu'il a fait voter, tout simplement, en débloquant les budgets nécessaires à la gratification des étudiants.
Par quelles actions ?
Par quelles actions ? Alors, on a fait une manifestation le 5 mars du Pérou à la Comédie, par exemple, c'est le genre d'action qu'on va faire. Et puis voilà, on est au début du mouvement, on s'organise, on fait des assemblées générales, et tant que c'est le début, voilà, mais on essaye de se bouger et puis rencontrer les hommes politiques. On a rencontré la direction ici de l'IRTS, du Conseil général, on y allait aussi, et puis voilà, on est en train de rencontrer le maximum d'acteurs et puis se coordonner au niveau national aussi.
Oui, parce que c'est un mouvement national de grande ampleur.
Voilà, hein. C'est ça. Ça touche beaucoup de villes. Et donc à Angers, là, j'en parlais tout à l'heure, on était plus d'environ 20 villes représentant des écoles de formation sur tout le territoire français. Et donc voilà, on se coordonne et puis on essaye d'agir tous ensemble dans le même but. Il faut savoir que la gratification, aujourd'hui, c'est le problème qui nous est posé. Et ça concerne que les formations d'éducateurs spécialisés, d'assistants de services sociaux et d'éducateurs jeunes enfants. Mais il y a d'autres formations de travail social qui ne sont pas touchées par la gratification. Nous, on revendique aussi que ceux qui sont en formation d'aide médico-psychologique ou de moniteur éducateur soient gratifiés parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et on essaye aussi d'élargir ce mouvement aux autres étudiants parce que cette gratification touche les travailleurs sociaux, mais touche également les étudiants en psycho ont leur stage de master à passer. Et voilà, on est face au même problème.
Ça peut rejoindre du coup un mouvement national, je dirais social, de grande ampleur, élargir le débat.
C'est ce qu'on souhaitait, nous, déjà, élargir le débat. C'est-à-dire qu'à la base, on se revendique comme étudiant en travail social, donc il faut être identifié au début. Mais c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question, comment élargir ces revendications, comment essayer de faire prendre conscience à tous les étudiants qui sont amenés tôt ou tard à faire un stage au sein de leurs études, de nous rejoindre, en fait. On veut clairement élargir ce débat-là et avoir le plus de monde derrière nous, parce que c'est vrai que c'est bête à dire, mais plus on sera, et peut-être qu'on sera, plus on sera entendu, quoi, tout simplement.
Comment on se fédère d'ailleurs entre les diverses écoles, puisque tu soulignais qu'il y en avait une vingtaine à Angers dernièrement lorsque vous vous êtes regroupés. Comment on vous fédère lorsque vous êtes autant ?
Comment on se fédère ? C'est compliqué, c'est beaucoup d'organisations, et c'est des mails, c'est on connaît une école qui est mobilisée, donc on va avoir un contact là-bas, et puis une deuxième, une troisième, et puis voilà, on voit au final, et puis il y en a une qui prend la décision d'organiser une coordination. La première, c'était à Lyon au début de l'année, le 4 janvier, je crois. La deuxième, c'était à Angers, début du mois de mars, et la prochaine, c'est à Clermont-Ferrand. Et voilà, et celle d'après sera à Marseille, et on se coordonne comme ça, on essaye de chacun dans sa région, essaye d'aller voir les écoles qui n'étaient pas là, et voilà. Je crois que c'est un vrai travail qui est très formateur et très, très intéressant aussi. Quoi.
Voilà. Ça ne vous gêne pas dans vos études, tout ce mouvement-là, dans le sens où ça ne vous prend pas beaucoup de temps?
Non, mais il faut le voir, faut l'envisager, à mon avis, en tant que citoyen, tout simplement, au-delà de la condition d'étudiant ou de quoi que ce soit. Je pense que c'est un combat parmi plein d'autres. Par les temps qui courent, je dirais que... C'est plutôt important d'essayer de se battre pour des choses comme ça.
Clairement.
Donc voilà, non, il faut le voir au-delà, je pense, du simple fait d'être étudiant. C'est juste un combat citoyen, on va dire. Ouais. Voilà.
C'est la question souvent lors des grèves qui se posent aux étudiants et ce qui crée peut-être aussi la scission entre divers étudiants, le fait de se considérer en tant que citoyen ou seulement en tant qu'étudiant qui étudie et qui ne fait rien d'autre. D'où ma question. Quid des prochaines actions ? À voir localement à Montpellier, puis tu nous avais parlé donc Yoann de Clermont-Ferrand, de Marseille pour les prochains regroupements.
C'est ça, les prochains regroupements là qui commencent à être fixés. On travaille sur des mots d'ordre généraux et puis sur des actions aussi collectives à mener. Par exemple, les mêmes jours, on envisage éventuellement d'aller monter un jour sur Paris en fonction des réponses qu'on a du gouvernement, parce qu'on n'est pas dans une démarche de dire non, c'est pas bien. On est dans une démarche de discussion et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Il faut savoir qu'il y a des sénateurs là qui sont en train de mener une proposition de loi pour proposer la fin de la gratification pour les travailleurs sociaux. Donc voilà, tout ça, c'est des personnes qu'on va essayer de rencontrer. Ils ne sont pas sur la région, mais bon, d'autres étudiants d'autres régions qui vont aller les rencontrer. Il y a des missions d'information aussi qui ont été lancées par le ministère sur cette question-là. Donc voilà, nous on essaie d'être dans cette démarche-là, et en fonction des réponses qui vont nous être données au niveau national ou au niveau local par les élus, on verra les actions qu'on mettra en place ici. Donc voilà.
Puis on est en pleine campagne là, électorale au niveau local, donc ça peut jouer aussi peut-être, je ne sais pas.
Oui, ça peut jouer, mais ce qu'il y a quand même à noter quand on va rencontrer souvent des hommes politiques, c'est que la réponse qui nous est faite, c'est bien souvent « Ah ben je crois que c'est pas avec nous qu'il faut voir, il faut plutôt aller vers la préfecture » ou plutôt... Donc c'est vrai qu'on est aussi un peu baladé. Donc c'est vrai que des fois c'est assez déroutant, mais je pense qu'il faut pas baisser les bras, et comme disait Yuan, il y a encore beaucoup de choses qui sont mises en place pour continuer la mobilisation, l'information de tous les gens qui sont éventuellement pas au courant. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'on ira, je pense, et qu'on va continuer.
Bon courage à vous deux.
Merci.
Qu'est-ce que vous diriez à des nouveaux étudiants qui intégreraient l'IRTS la prochaine année ? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ?
Ben, qu'il n'y a pas de fatalité, finalement, que même si des fois c'est dur, c'est vrai que nous, déjà, on est arrivés, on ne pensait pas peut-être que ce soit si difficile d'arriver en stage ou qu'il y ait déjà ce genre de problème qui se pose dès le début de la formation, mais qu'il y a des gens qui sont là, qui s'engagent et qui sont prêts à défendre leurs droits, et voilà, qu'il faut continuer.
Que ce sont des beaux métiers.
Merci à vous deux.
De rien. Merci.
Thank you. an odd noise and a strange voice. I thought something was happening, sir. No, 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 it's quite all right, Cole. There was someone here, a friend of mine. Hey, Mr. Hyde.
You, sir, you are the famous Dr. Jekyll.
This man Hyde will never trouble you again. I give you my word.
Et on vient d'écouter le deuxième titre, Dr. Jekyll, de l'album de la semaine. C'est Tribeca Colors avec un Q et non pas un C. C'est très joli à écouter aux oreilles. Et on reçoit, preuve d'une grande liberté de parole et diversité d'expression à Divergence FM, Jacques Fraisse. Bonjour Jacques Fraisse.
Bonjour.
Et vous êtes le directeur général de l'IRTS. On vient d'avoir au micro deux étudiants qui parlaient de leurs petits soucis de rémunération de stage. Mais tous les deux, on va parler de la journée portes ouvertes du jeudi 18 mars de 14h à 17h à l'IRTS Languedoc-Roussillon de Montpellier. Alors, on fait un petit trait d'union avec le plateau précédent et les étudiants. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas rémunérer les gens qui font des études, et puis il y a la loi, et puis il y a les réglementations, et on ne peut pas les appliquer parce qu'on n'a pas de sous. On va voir ce qui se passe.
Bon, eh ben, on pourrait dire, pour faire un enchaînement positif, l'IRTS partage les préoccupations qu'ont exprimées les étudiants, puisque, au fond, notre système de formation est basé très fortement sur l'alternance entre les stages et les regroupements dans le centre à l'IRTS. La loi a ouvert des possibilités de gratifier, donc de pouvoir donner une somme d'argent à des stagiaires, mais malheureusement, donc, ce sont les établissements, les collectivités qui accueillent, qui doivent financer, et les fonds ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, nos formations, si je peux me permettre, marchent très bien parce que il y a beaucoup de stages et que cela permet à la sortie d'avoir du boulot. Et finalement, aujourd'hui, ces stages sont mis un peu en danger, ou du moins deviennent difficiles à trouver parce qu'il n'y a pas le financement qui correspond à ce que la loi a imposé. Voilà. Donc, on est tous un peu coincés et les étudiants essayent de faire entendre leur voix pour que, au fond, la loi s'applique et qu'ils puissent conserver des conditions d'études excellentes comme on essaye de les mettre en place.
Bon, donc il y a une loi qui peut avoir un intérêt parce qu'effectivement, les stages, c'est aussi du travail, mais il n'y a pas les sous qui en face.
En gros, voilà, c'est ça.
Disons voilà. Les choses clairement.
À peu près.
Bon, eh bien, on va suivre cette affaire pour savoir si on peut trouver des sous pour rémunérer ces stagiaires. On demandera ça à M. Fillon. Puisque j'imagine que c'est le gouvernement qui a déposé ce projet et non pas l'Assemblée.
Bah, la loi est venue du gouvernement, oui, mais la loi est généreuse, c'est-à-dire qu'elle cherche à faire reconnaître l'apport d'un stagiaire dans une structure, mais ce n'est pas une loi pour le secteur social, c'est une loi pour tous les stages dans toutes les entreprises, qu'elles soient sociales ou pas sociales. Et finalement, dans le social qui reçoit d'une façon générale des financements publics, de la sécurité sociale, de l'État, des conseils généraux. Bon, ce sont ces collectivités publiques qui doivent maintenant arriver à mobiliser les fonds pour mettre en œuvre la loi. Mais elles ont été en quelque sorte prises de court et on n'est pas dans des secteurs dans lesquels le bénéfice de la vente de produits, en quelque sorte, serait au fond. Voilà.
C'est clair. Alors justement, revenons à nos moutons, donc là, aux journées portes ouvertes de l'Institut régional du travail social. Alors, c'est jeudi 18 mars, c'est à l'IRTS Languedoc-Roussillon de Montpellier. On rappelle ce que c'est qu'un travailleur social, hein, une assistante sociale, un éducateur spécialisé, une conseillère en économie sociale. Ce sont des travailleurs sociaux.
Oui. Et alors, les travailleurs sociaux, c'est une famille dans laquelle il y a plusieurs métiers. Alors, vous avez commencé à citer, mais quand on regarde, il y a une dizaine de diplômes qu'on peut ranger sous la même bannière de travailleur social. Alors, pour faire simple, parce que la liste, sinon, pourrait au contraire faire compliqué, pour faire simple, on peut dire qu'il y a deux grandes familles. Une famille éducative, donc dans laquelle il y a des métiers de l'éducation, que ce soit de l'éducation spéciale, c'est-à-dire auprès des personnes en difficulté ou handicapées, ou que ce soit l'éducation des jeunes enfants, hein, des tout-petits. Et puis, il y a les métiers du côté du conseil ou de l'aide de l'assistante, donc les assistants sociaux, les conseillers en économie sociale et familiale, et d'autres métiers liés à des BTS. Voilà. Globalement, les travailleurs sociaux, ils interviennent pour résoudre des situations, aider des gens, intervenir auprès de collectifs de personnes pour essayer d'aller mieux quand il y a des soucis, soit temporaires, soit des soucis lourds, quand ils sont permanents parce que c'est un handicap, soit aussi pour dynamiser des projets, faire en sorte que prévenir des difficultés, la prévention sociale, l'intervention dans les quartiers. Voilà, c'est tout ça.
Alors, est-ce qu'il y a des vocations en nombre dans ce secteur, à une époque où c'est l'argent qui motive les jeunes? Si, alors, on va voir si ces formations s'adressent qu'aux jeunes, hein, vous allez me le dire. Mais on voit souvent, on a envie de faire de la com, on a envie de faire du journalisme, on a envie d'être chanteur, chanteuse, de faire du cinéma, d'être business girl ou business boy, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, y a un engouement, le recrutement se fait assez facilement dans cette branche-là, dans cette ère du travailler plus pour gagner plus?
Écoutez, peut-être que à la radio, il y en a qui veulent faire de la radio-réalité et d'autres des radios associatives. Dans le monde des jeunes et pas que des jeunes, il y a beaucoup de personnes qui veulent œuvrer à des choses intelligentes et utiles au sens social du terme. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui ont envie aujourd'hui de faire intervenant social, aussi bien dans les métiers éducatifs que dans les métiers de lutte contre les exclusions. Oui, il y a du monde, hein. Donc, notre période qui, par certains côtés, est assez désespérante, elle n'empêche pas que, et heureusement, beaucoup encore aient envie de s'engager dans du social.
À qui vous vous adressez? Je suis d'accord avec vous. À qui vous vous adressez sur cette journée de jeudi? L'idée, c'est de recevoir des jeunes qui vont envisager une formation initiale ou quelqu'un qui a 50 balais, qui veut changer de métier, il peut venir frapper à la porte de l'IRTS?
Alors, c'est vrai que s'engage dans les métiers du social, c'est deux catégories au fond de public. Et c'est possible. Bon, des jeunes, puisque les diplômes auxquels nous préparons sont ouverts et fondamentalement à la formation initiale, donc après des études secondaires en général, voire en étant en cours d'études à l'université, on peut essayer de rentrer donc à l'IRTS. Mais il y a aussi toujours un certain nombre de personnes qui découvrent cette voie professionnelle après avoir fait d'autres chemins de vie. Et c'est aussi intéressant parce que c'est cette pluralité, au fond, cette diversité après de profils qui constitue la richesse aussi pour aider les gens qui ont des difficultés.
C'est payant, les études à l'IRTS? C'est payant, c'est cher, c'est pas cher, c'est...
Alors, les formations initiales pour préparer les diplômes d'État, elles sont subventionnées par la collectivité publique et depuis 2004, c'est la région qui finance ces formations. Donc, les étudiants, puisqu'à ce moment-là, les personnes en formation ont un statut d'étudiant, ne payent que des droits d'inscription et de scolarité à peu près, on va dire, comme à l'université, c'est-à-dire 370 euros l'année prochaine.
Voilà. Ça dépend de l'université. Si vous allez à Paris-Dauphine, vous allez voir que les frais de scolarité sont plutôt de 4000 euros. Hein.
Oui, d'accord.
Non, mais je déconne. D'accord. Donc, c'est, entre guillemets... financièrement accessible. Ouais. Et après, c'est en formation continue.
Alors, quand on est en formation continue, là, bien évidemment, ce n'est plus la collectivité publique qui paye, mais normalement, c'est le financement de la formation continue, donc avec la cotisation des entreprises, des employeurs, des structures, donc, qui font que le salarié en formation continue, ce n'est pas lui qui paye de sa poche. Voilà.
Alors, qui vous attendez, qui vous invitez à ces journées portes ouvertes ?
Bon. Portes ouvertes, ça veut dire qu'il n'y a pas de catégorie de public particulière. Bon, on sait que ça va permettre à un certain nombre de jeunes qui se demandent concrètement comment c'est un IRTS, quels sont les diplômes, quelles sont les études, essayer de voir d'un peu plus près cette réalité, hein, puisque certains étaient au quorum quand il y a les grandes journées, la grande foire. Mais là, c'est un accueil sur le site. Donc, bien sûr, il n'y a pas des choses extraordinaires à voir, mais il y a des formateurs à rencontrer, parfois des étudiants, voir comment sont les locaux. Donc, des jeunes, mais aussi d'autres personnes qui veulent se reconvertir et qui, là aussi, auront des éléments de réalité pour asseoir leur projet, hein, voir si leur projet tient la route.
Alors, vous éditez les RTS, une revue qui s'appelle Le Sociographe. Et je me suis laissé dire, en fait, que je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier titré « Le travail social est-il de gauche ?» Alors, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que le travail social est de gauche en cette journée post-élection régionale ? Voilà. C'est glissant pour le directeur général.
Voilà.
Bien qu'à divergence, la liberté de parole soit de mise, il est de temps en temps un petit peu de pudeur sur certains sujets parce que on sait jamais. Hein.
Non, mais vous ne saurez pas ce qu'a voté hier le directeur général de l'IRTS. Par contre,
c'est bien dommage.
C'est ce qui a fait basculer d'ailleurs le dernier scrutin, comme on l'a vu en Languedoc-Roussillon. Donc, le travail social, c'est un engagement auprès des personnes, c'est un engagement pour faire en sorte que les difficultés sociales, encore une fois temporaires ou quelquefois permanentes, que la société, par l'intermédiaire des travailleurs sociaux et avec un financement public, pour qu'on puisse œuvrer à ce que ça aille mieux. Alors, si œuvrer à ce que ça aille mieux, vous voyez, c'est des mots assez simples,
oui.
On appelle ça être de gauche peut-être. En tout cas, il y a un fond d'humanisme, il y a un fond de volonté d'amélioration sociale qui accompagne le travail social. Ça ne fait pas ça un bulletin de vote, ça fait une position vis-à-vis de ce que c'est que vivre en société, vivre les uns les autres avec les différences et avec les difficultés que peuvent traverser donc, nos concitoyens, pour rester sur le même vocabulaire.
Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de travailleurs sociaux dans ce pays ? Non, je dis ça parce que, par exemple, quand on prend le cas de quelqu'un dans le besoin comme Johnny Hallyday, qui manifestement ne trouve pas l'aide suffisante en France puisqu'il va en Suisse pour pouvoir économiser un peu d'argent et aux États-Unis pour se faire soigner, ça veut dire que bon, il trouve pas en France ce qu'il lui faut. Alors on s'inquiète, on se dit que peut-être il y avait pas assez de travailleurs sociaux pour aider, par exemple, des gens comme Johnny Hallyday.
Bon, je crois savoir qu'il n'avait pas besoin de travailleur social, il avait besoin d'un impresario, c'est comme ça que
ah,
ça s'appelle.
Ah zut, oui, voilà. C'est voilà. Ça, je donc, me suis trompé. Voilà. Donc ne pas confondre l'impresario voilà. Et le travailleur social. Donc plus sérieusement, est-ce que vous pensez que est-ce qu'il y a un numerus clausus déjà pour à l'IRTS, comme il peut y avoir dans certains corps de métier, comme par exemple les médecins est-ce qu'il y a assez de travailleurs sociaux ? Est-ce qu'on manque de cette intelligence de l'aide aux autres dans ce pays en matière de compétences professionnelles ? Je suis désolé de vous poser
quand on regarde aujourd'hui les difficultés de la société, on peut se dire qu'on manque de travailleurs sociaux. Après, on va se retrouver devant des choix à la fois de politique et bien entendu financier. Mais comment calculer ce que coûte et ce que produit un travailleur social, hein? Comment travailler, comment calculer ce que c'est qu'un service rendu à la société, quel est son coût, quel est son rendement. Quand on commence à rentrer dans des questions comme ça, on a du mal.
La valeur ajoutée du travail social.
Voilà. Mmh. Est-ce que dans les quartiers où des voitures brûlent régulièrement, comment peut-on calculer l'importance qu'il y a à ce que des travailleurs sociaux fassent du lien collectif, soient auprès des jeunes, essayent de monter avec eux des projets, bon, à côté, bien sûr, des forces de l'ordre, mais dans une autre dynamique que celle des forces de l'ordre. Alors, et puis, quand il s'agit de s'occuper de personnes handicapées, y a-t-il assez de monde pour que ces personnes aient une vie la plus normale ou la plus satisfaisante, en tout cas possible. Donc, oui, il y a toujours besoin de travailleurs sociaux. Par contre, pour entrer en formation, il y a un numerus clausus, il y a des sélections à l'entrée. Bon, c'est quelquefois douloureux parce que c'est difficile de rentrer à l'IRTS. Là, par contre, l'intérêt, c'est que une fois que l'on est rentré, si bien entendu, si on confirme dans son travail que c'était bien un métier que l'on peut remplir, les conditions d'études à ce moment-là sont intéressantes. Et voilà.
On a 30 secondes pour conclure. Qu'est-ce que vous souhaitez, ça passe vite, hein, 20 minutes, qu'est-ce que vous souhaitez dire à celles et ceux qui nous écoutent pour qu'ils viennent s'intéresser de plus près à ces métiers-là, à l'IRTS, donc je le rappelle, le jeudi 18 mars.
Dire que le travail social, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des métiers qui sont sensiblement différents et que du coup, il y a, si l'on a une volonté d'engagement dans ces dimensions, il y a certainement chaussures à son pied dans les différents métiers.
Donc rendez-vous, c'est un bon plan, Divergence, rendez-vous à l'IRTS, où ça se trouve l'IRTS, rue du Pont de la Vérune.
Ça se trouve entre Selle-Neuve et Saint-Jean-de-Védas, on va dire.
Voilà, donc c'est, je le répète encore une fois, et une dernière fois, c'est le jeudi, c'est ce jeudi 18 mars de 14h à 17h. Merci Jacques Fraisse, directeur général de l'IRTS, d'être venu. Et puis, on va suivre un petit peu les activités et les revendications estudiantines dans tous les secteurs à propos de ces stages. Merci, à bientôt et bonne journée, portes ouvertes le jeudi.
Merci.
18 mars.
À suivre dans le 93.9. Eh bien, à 13h20, vous retrouverez Alexandre Solutricine qui nous parlera aujourd'hui de la grande mode de bowling, ou bien des deux, allez savoir. Et puis à 13h30, ce sera l'EPRA, l'échange et de production radiophonique, une banque de programmes radio favorisant l'intégration en France des populations issues de l'immigration et de la lutte contre les discriminations, un magazine de société orchestré par Vincent Pourageau. À 17h, vous aurez joie à retrouver la rediffusion de ce Tous au poste. Aujourd'hui consacré à l'IRTS. À 18h, ce sera Si loin, si proche. Pierre-Louis Chevalier reçoit un invité pendant 27 minutes pour aborder un problème de société qui, vous l'aurez deviné, nous touche de près ou de loin. 18h30, place à Provoscopie, l'émission politique de Divergence FM. Et bien ce soir, cette petite troupe évoqueront les résultats du premier tour des élections régionales en Languedoc-Roussillon en compagnie des représentants de chaque liste et ce sera en direct du bar de la Vieille Porte. À 20h, petit voyage. C'est Andalous par Jamuel Toiti. Un retour du spectacle de Rodolphe Burger en hommage à Mahmoud Darwish qui s'était déroulé à la scène nationale de Sète la semaine dernière. Rodolphe Burger était accompagné entre autres de Rachid Taha. Et puis à 21h30, c'est votre rendez-vous avec la chanson française Tout Azimut. Laissez-vous emporter à travers les vagabondages de Thierry Margot. Ce soir, il sera accompagné de Cédric Dimos et ils nous parleront de Jean Ferrat et de la voix des Victoires de la Musique et ils feront un tour d'horizon de la chanson française. C'était Tous au poste, une émission orchestrée par Manuel Plaza au petit micro, petit bouton, Julia Chamaudon et Christian Coste au micro. Une très bonne après-midi à vous sous le soleil de Montpellier.